Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Sans commenter les résultats et les conséquences de la révolution iranienne de 1978 qui a remplacé une monarchie par un régime islamique chiite, cet ouvrage apporte un éclairage vivant et intime du bouleversement que cette révolution a opéré dans la vie d'une petite fille contrainte à l'exil. C'est un témoignage remarquable et émouvant d'un tsunami d'émotions et de questions sans réponse pour arriver à une prise de conscience, un regard nouveau que, devenue adulte, elle porte sur son histoire, celle de sa famille et sur ceux qui l'a construite. Il s'agit d'une biographie intitulée « L'échelle des voleurs » parue aux éditions Vérone et j'ai le très grand plaisir d'accueillir son auteur, Yasmine Anvari Buffet. Alors Yasmine Anvari Buffet, bonjour.
Déjà,
je suis ravie de vous accueillir. Les déplacements de personnes, les exils liés à une révolution, à une guerre, pour des raisons politiques, religieuses ou économiques, sont hélas très fréquentes, et peut-être plus encore maintenant, mais je n'en sais rien. Il y en a toujours eu, je crois, hélas. Qu'éprouvez-vous, vous, en voyant actuellement à la télévision les Ukrainiens fuyant leur pays ?
Eh bien, c'est vrai que l'histoire se répète, malheureusement, et ce que je vois actuellement sur les Ukrainiens fait écho, effectivement, à mon propre histoire et à ce que j'ai vécu en quittant l'Iran de façon forcée à la révolution.
Et brutale.
Oui, et brutale, exactement. Rapide. Oui. Rapide et brutale, voilà, cet exil forcé, oui.
Alors, et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? C'est une biographie, votre biographie, ou du moins une première partie, car vous êtes jeune encore et vous avez de nombreuses années devant vous.
Oui. En réalité, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'était le désir de vouloir sauver de l'oubli un petit peu cette histoire, ce vécu. Et peut-être de me réconcilier aussi avec mes différentes identités, puisque effectivement j'ai donc une identité iranienne, une identité française, j'ai eu une identité on va dire d'expatrié, puisque j'ai aussi vécu quelques années en Allemagne, et donc l'écriture m'a permis de rassembler un petit peu toutes ces choses afin de les réconcilier. Et ça me permet aussi de comprendre davantage et peut-être mieux ma vie et mon vécu.
Oui, certainement, voilà. Certainement. Pourquoi ce titre ?
Alors, ce titre, il faut lire le livre jusqu'au bout.
Mais voilà, on va inciter nos auditeurs à le lire.
Pour en comprendre la signification réelle, bon, je peux dire que ce titre, en réalité, c'est un surnom qui m'a été donné par mon père quand j'étais petite. Donc, ça fait référence à ça. Mais après réflexion, je peux aussi peut-être penser que ce titre, l'échelle pourrait évoquer une échelle métaphorique qui ferait penser à une intrusion, à des bouleversements de vie dus à des intrusions externes, non voulues, qui font que...
Oui, mais en même temps, une échelle vous permet de grimper.
C'est vrai, et une échelle permet effectivement aussi de grimper, peut-être, oui, et de... C'est vrai, de grimper, et... oui, tout à fait.
Alors, justement, c'est votre père qui vous a insufflé ce titre, et ce livre est dédicacé à votre père, Hossein Ali Anvari, décédé en 1989, oui. Iranien, ayant fait une partie de ses études d'ingénieur à Toulouse, ainsi qu'un doctorat d'État, un homme brillant. Et qu'est-ce que pouvez-vous nous parler de lui ?
Oui, mon père était effectivement, il était ingénieur de formation. Il a été haut fonctionnaire sous le régime du Shah.
Il a été, je crois, recteur de l'université.
Oui, il a été recteur. À la fin, il était recteur, mais il a été également ministre de la Culture et de l'Information au milieu des années 70, sous le régime du Shah d'Iran. Et à la fin, effectivement, il était recteur de l'université de Téhéran. Oui. À cause de ses fonctions, il a été forcé à la révolution de quitter l'Iran. Oui.
Alors, vos parents, vous les décrivez comme assez dissemblables, mais en même temps, on voit évidemment qu'au moment les plus difficiles, ils étaient unis, bien entendu. Le milieu maternel, vous le décrivez, était passionnant. Visiblement, vous avez un souvenir extraordinaire de votre grand-mère. Le milieu maternel, quel était-il ?
Le milieu maternel était très différent du milieu paternel, effectivement. Et le milieu maternel était un milieu très ouvert, surtout pour l'Iran de l'époque, puisque mon grand-père était un personnage un petit peu en couleur, qui était d'un esprit très ouvert, très européen. Enfin, et ma mère a donc vécu dans un milieu
très progressiste.
Cultivé également. Et vraiment, comment dire, très... très européanisé pour l'époque.
Et quand vous parlez de votre grand-mère, on a envie de la connaître.
Oui.
Elle était sensible, généreuse, beaucoup d'humour,
oui. Ma grand-mère était une personne très importante pour moi. Elle avait beaucoup d'humour, elle était très sensible, elle était très forte, elle était un pilier quelque part pour moi, c'est vrai.
Oui. Et tout au cours de votre ouvrage, on la retrouve et visiblement, c'est la séparation qui vous a été la plus difficile.
C'est vrai, c'est une des séparations qui m'a été la plus difficile, effectivement. Ma grand-mère, j'étais très attachée à elle. Malheureusement, la vie a fait en sorte que nous étions très souvent séparés. Oui. On n'a pas pu se voir
aussi souvent
que j'aurais voulu. Oui. Oui, c'est vrai.
Alors, le milieu paternel est très différent.
Très.
Peut-être moins facile d'accès.
Beaucoup moins facile d'accès. C'est un milieu, ils sont beaucoup plus enfermés sur eux, beaucoup plus religieux, on va dire aussi. C'est un milieu très différent.
Alors, on peut dire pour nos auditeurs qu'ils sont musulmans chiites.
Ils sont musulmans chiites, bien sûr, oui, oui, bien sûr.
Et votre grand-mère paternelle est assez exigeante, finalement, dans ce domaine, non ?
Elle est assez exigeante, oui, elle est assez exigeante et elle a imposé des règles familiales qui font que ses enfants suivent ces règles à la lettre.
Oui, elle culpabilisant facilement peut-être les enfants qui n'allaient pas dans la direction qu'elle souhaitait.
Tout à fait. Elle avait aussi une très grande emprise sur ses enfants, et particulièrement sur mon père qui était le fils aîné de la fratrie. Oui. Donc,
Elle était certainement très fière.
Puisqu'elle a perdu en plus son mari relativement tôt. Mon père était jeune quand il a perdu son père.
Oui, alors il a eu également ce poids de les fils aînés, ce poids...
Exactement.
Il était chef de famille,
très tôt, puisqu'il avait 19 ans aussi quand il a dû remplacer son papa.
Et vous notez quelque chose qui est important, je pense, dans une vie. Il n'a pas eu la jeunesse insouciante, libre, qu'a eu votre mère, par exemple.
Exactement, tout à fait, oui. Mon père n'a pas eu cette jeunesse qu'a eu ma mère. Au contraire, ma mère a eu une très belle enfance, très belle jeunesse. D'ailleurs, elle le répète. Elle le répète assez souvent. Mais mon père, au contraire, il avait le poids des responsabilités lui sont tombées dessus.
Très jeune,
avec une mère très, très directive et
directive à l'égard de sa belle-fille aussi. On voit qu'à un moment donné, on peut comprendre la belle-fille qui se rebiffe.
Exactement.
Alors, évidemment, à l'arrivée de Khomeini, Je ne sais pas, j'espère ne pas m'être trompée, c'était bien en 78, il est arrivé, non ?
Il est arrivé en 79, en 79. Février 79, voilà. Exactement.
Voilà, ouais. Alors à l'arrivée de Khomeini, le départ en Iran, de l'Iran a paru indispensable, nécessaire.
Oui, malheureusement. Oui, à un moment donné, quand Khomeini est arrivé... Enfin, il est rentré pour ses, partisans. Enfin, il est rentré à Téhéran. La situation s'est énormément aggravée pour beaucoup de personnes, dont ma famille.
Oui, oui, il y a même eu des assassinats.
C'était, effectivement, oui. Des arrestations, des assassinats. Oui. Voilà, c'est vrai que.
Donc, également, il y a eu le choix de venir à Toulouse. Bon, on en parlera. Je me suis posé la question, est-ce que vous aviez à ce moment-là 8 ans ?
Oui.
Est-ce qu'on vous a expliqué ? Est-ce qu'on vous en a parlé de ce départ ? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi ?
Alors, est-ce qu'on m'en a parlé réellement ? Bien sûr, on en parlait quotidiennement. J'entendais mes parents... en discuter
entre eux,
bien sûr. Et puis, comme je le raconte dans le livre, comme j'étais dans une école américaine et que, bon, la révolution a surgi plus ou moins brutalement, on va dire, tous les jours, il y avait quand même des événements à l'école qui faisaient en sorte qu'on voyait...
On sentait le danger.
On sentait le danger. On sentait la fin d'une époque et on sentait que bon, les choses allaient changer de façon radicale.
Oui. Et est-ce que vous, enfant, parce que 8 ans, c'est un enfant, vous étiez un enfant, est-ce que vous avez compris qu'il fallait que vous alliez partir à cause de ce danger ?
Oui, bien
oui,
sûr.
Vous l'avez ressenti.
Oui. Bien sûr, oui.
Alors évidemment, un départ délicat, et on le comprend, parce qu'il s'agit de partir sans dire qu'on part définitivement. Enfin, c'est un départ comme un départ en vacances, avec peu d'objets. Alors, à un moment donné, il y a l'épisode, évidemment, de l'ours qui va receler quelques petits souvenirs de votre maman. Mais en tout cas... Ce départ est pour vous est resté vraiment, j'ai l'impression, est resté gravé en vous. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez raison. Ce départ est resté gravé en moi, effectivement, comme la fin de ma première vie, on va dire.
Oui,
c'est comme si c'était la fin d'une époque. Oui. Ma seconde vie, on va dire, ou ma seconde naissance, se fera après ce départ en France, à Toulouse.
Yasmine Anvari-Puffet, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre ouvrage. Il s'agit donc de ce départ, page 53, et on imagine la tension qui régnait à ce moment-là.
Papa avait sur lui 2 billets d'avion à son nom pour un aller simple Téhéran-Paris, un dont le départ était avec nous ce matin-là et un autre pour le lendemain, au cas où on l'empêcherait de quitter le territoire ce jour-là. Moi, je serrais fort contre ma poitrine, ma peluche Snoopy, tout au long du trajet, lui qui était le complice de maman à mon insu. La voiture fila le long de l'avenue par la ville la plus belle de Téhéran, encore quasiment endormie à cette heure-ci. Les devantures des magasins étaient encore éclairées de la veille. Le jour n'était pas encore levé. À quelques pas de là, nous passâmes devant un parc magnifique avec un petit étang où des personnes y déambulaient déjà. La circulation était encore fluide à cette heure-ci. Mais une fois à la hauteur de la tour Chayyad, devenue depuis tour Azadi, la circulation s'était intensifiée. Les 4 avenues autour commençaient à se noircir de monde subitement avec le jour qui se levait. Une fois arrivé, notre chauffeur, qui était un homme d'une très grande gentillesse et loyauté, nous a également fait ses adieux, même s'il avait pour instruction d'attendre afin d'être certain que papa allait aussi décoller avec nous. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur de l'aéroport, malgré l'heure matinale. Le malaise avait gagné mes parents. Ce qui me tracassait le plus, très égoïstement, était de savoir si on allait bientôt s'installer dans l'avion. Je crois que nous n'avions plus qu'une hâte, tous, partir, quitter ce brouhaha. Mais avant cela, il fallait encore gravir avec succès plusieurs étapes. Et puis, comme un miracle, nous avions remporté la victoire. Nous avions franchi toutes les barrières, tous les obstacles. Nous étions tous réunis, Snoopy y compris, et de plus indemne. Le stratagème de maman avait parfaitement fonctionné. Elle qui n'avait mis personne dans la confidence. Son secret avec mon Snoopy ne fut pas démasqué. Papa avait aussi réussi à surmonter avec succès l'étape passeport. Je l'entendis remercier un homme qui lui remit celui-ci avec pudeur au moment où il franchissait le portique. Voilà, c'était fait. Mon père pouvait peut-être enfin souffler. Il avait son passeport, son billet. On le laissait s'en aller avec nous. Une fois dans l'avion, étrangement, la tension n'était toujours pas redescendue. L'appareil était surchargé. Nous prîmes nos places, ma sœur, maman et moi. Papa était séparé de nous par le couloir. Je regardais l'aile de l'avion, mais aussi le tarmac à travers le hublot. Le commandant de bord annonça au microphone que l'embarquement était terminé. Par contre, qu'il y avait à bord plus de monde que de places disponibles. Il nous demanda de céder, si possible, une place pour le décollage à ces quelques personnes non enregistrées. À cet instant, une jeune femme se présenta à maman. Maman prit ma petite sœur sur ses genoux et laissa la place vacante à cette personne qui se trouvait être la sœur du pilote. L'heure était venue de partir pour de bon. Par le hublot, je voyais sur la piste des postures hostiles de soldats patrouillant encore autour de notre Boeing. Enfin, les hommes en armes s'éloignèrent en donnant l'ordre au pilote de décoller. Les gorges étaient encore serrées. Probablement, papa devait retenir très fort son souffle. L'aile de l'avion clignotait maintenant et l'engin se mit enfin à rouler. D'abord lentement, puis après un dernier arrêt, il accéléra de toutes ses forces afin d'atteindre sa vitesse de décollage et de quitter le sol de l'Iran avec la prise de l'altitude. Tous nous étions assis, les ceintures bien serrées. Il y régnait un calme inhabituel et puis soudain, dans ce silence des moteurs, une personne se mit à applaudir. Il fut tout de suite rejoint par tous les autres. Un tonnerre d'applaudissements et des cris de joie éclatèrent dans la cabine. La tension était enfin relâchée. Plus rien ne semblait maintenant pouvoir faire échouer ce départ. Téhéran s'éloignait peu à peu sous mes yeux et je restais comme hypnotisée, collée au hublot. Je ne me souviens plus de ce que je fis, mais je sais que je ressentais que plus rien ne serait plus jamais comme avant. Et mon père, qu'avait-il ressenti à cet instant bien précis ? Se doutait-il qu'il venait d'inspirer ses dernières bouffées d'air téhéranais avant de monter dans cet avion ? Cet air si particulier, si parfumé, que je reconnaîtrai toujours tant il est imprégné en moi. Je sais que je suis restée assise longtemps, immobile, Snoopy collé contre moi, sans m'assoupir. J'étais excitée et en alerte, curieuse de connaître la suite qui nous était réservée dans ce départ qui n'en finissait plus de nous plonger dans l'inconnu.
من آمده ام دلم وای وای من آمدم عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند من آمدم با عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند من آمدم
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, et nous retrouvons Yasmine Anglary-Puffet qui a écrit L'échelle des voleurs, une histoire, son histoire, l'histoire d'une petite fille qui quitte l'Iran pour qui quitte définitivement, même si ensuite elle y est revenue, je ne sais pas, on en parlera. Yasmine Anglary-Puffet, vous venez de nous faire écouter une chanson interprétée par une chanteuse qui était très connue et que vous aimez. Il s'agit de...
Oui, alors il s'agit de Gougouche, qui est une chanteuse emblématique de l'Iran d'avant, mais aussi de l'Iran actuel, puisqu'elle est toujours extrêmement connue. Elle est aux États-Unis et tous les Iraniens la connaissent. C'est une véritable diva iranienne.
D'accord, voilà. Alors, vous nous avez lu un extrait particulièrement émouvant, vu à la hauteur d'une petite fille, mais on comprend la tension, l'angoisse de ce départ, en particulier pour vos parents.
Exactement, oui. Oui. En particulier pour mon père.
Oui. Oui. Tant que l'avion n'a pas quitté le sol, il y avait cette crainte.
Il y avait cette crainte, oui, qu'on vienne chercher des personnes à l'intérieur de l'avion.
Ce qui s'est fait
à un certain moment. Oui. Tout à fait.
Alors, quelle a été votre impression en arrivant en France ? Mitigée.
Oui, mitigée. Enfin, ce que je décris dans le livre, de la France, nous connaissions bien sûr Paris, mais aussi la Côte d'Azur, Nice. Bon, elle a eu... et de la Côte d'Azur. Mais Toulouse, effectivement, c'était une ville qui nous était inconnue. Oui. Mais c'est mon père qui connaissait Toulouse, puisqu'il il avait fait ses études dans cette ville des années auparavant. Et papa était très attaché à la France. D'ailleurs, c'était la seule personne qui parlait dans la famille le français. Et je pense qu'il s'exprimait relativement bien en français, oui, même en arrivant. Et alors que maman, elle était plutôt anglophone, ma sœur et moi, nous étions également anglophones puisque nous étions dans une école américaine à Téhéran. On ne parlait pas un mot de français quand nous sommes arrivés à Toulouse et donc Toulouse était pour nous une ville inconnue.
Alors, évidemment, vous étiez trop jeune, à 8 ans, trop jeune pour comprendre, vos parents, pour comprendre... le traumatisme qu'ils ont vécu. Est-ce que, sur le moment, pour votre mère, c'est un énorme traumatisme déjà ?
Pour ma mère, c'était un énorme traumatisme, effectivement, puisque pour elle, c'était vraiment un grand bouleversement. Et,
de vie,
d'attache. Oui. Voilà. Elle avait toute sa famille, elle avait une très belle vie à Téhéran. Elle avait beaucoup d'amis, elle avait sa famille. Et se retrouver subitement dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue, c'était l'exil pour elle était une forme de bannissement, on va dire. Oui, pour elle.
Et pour votre père, c'était un stress également, peut-être triple quasiment. Il y avait beaucoup,
il avait
beaucoup de choses à gérer, finalement.
Il avait beaucoup de choses à gérer. Il avait effectivement le stress de l'exil, le fait d'avoir fui le pays. Il avait le stress de sa famille, de nous, puisqu'il fallait en même temps qu'il puisse contenter ma mère, ma sœur et moi.
C'était le chef de famille.
C'était le chef de famille et tout ça pour lui était, je pense, un lourd fardeau, on va dire.
Oui. Et puis aussi, et c'est admirable, de se remettre à la recherche scientifique.
Oui.
Parce que bon, là, étant recteur, il avait certainement abandonné. Il avait été chercheur, mais là, il avait abandonné. Et s'y remettre, ça demandait un investissement énorme qu'il a accompli jusqu'au bout, puisqu'il a eu il a passé une thèse. Il était docteur d'État.
Tout à fait. Il a passé sa thèse. Effectivement, il a passé sa thèse. 10 ans plus tard, tout à fait.
Et ça demande un énorme travail.
Ça demande un énorme travail, d'autant plus qu'il a eu des soucis de santé entre-temps, probablement liés au stress qu'il a subi durant toute cette période.
Je pense, parce que c'est vrai qu'on parle aussi d'un avenir incertain, un manque de vision totale.
Un manque de vision totale, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la Révolution, pas seulement mes parents, mais je crois beaucoup de personnes ne pensaient pas réellement que cette révolution allait durer dans le temps.
Ils pensaient un an maximum.
Exactement, ils pensaient un an maximum, que peut-être, voilà, c'est une révolte qui allait prendre fin. Personne ne pensait réellement que cette révolution allait être définitive et durer dans le temps. C'est la guerre Iran-Irak un an après qui a vraiment marqué le pas. En rendant un retour au pays quasi impossible.
Oui. Alors, j'en reviens à votre père, puisque vous parlez beaucoup de lui à juste titre, parce qu'effectivement, on parle de son stress qui devait être énorme, mais il avait toujours une apparence calme, dites-vous, paisible, beaucoup de self-control en définitive, et beaucoup de pudeur également.
Beaucoup de pudeur.
Mais certainement une grande tension.
Une très grande tension, effectivement, je suppose, oui, très grande tension. Et par contre, beaucoup de pudeur et de retenue, parce qu'il ne voulait pas transmettre peut-être son angoisse
à la famille. Et puis, c'était une attitude digne, réservée, finalement.
Tout à fait, digne, réservée. Et comment dire, et c'est vrai que pour nous, c'était une période un petit peu compliquée, mais on pensait que ça n'allait pas durer. Donc au départ, nous étions là que pour quelques mois. Et ma mère s'était résignée.
Elle plus explosive. Vous dites à un moment donné, elle s'exprimait pour le coup en disant que c'était une disgrâce et un châtiment.
Exactement. Pour elle, elle a vécu ça comme un châtiment, tout à fait. Et être seule en France, notre vie a été chamboulée, on va dire, quelque temps après notre arrivée, par d'autres événements qui ont fait voilà.
Mais revenons à vous.
Oui.
Parce qu'en fait, vous racontez, et on imagine cette petite fille qui arrive à 8 ans, qui ne parle pas un mot de français, qui va découvrir les lieux, l'habitation, donc la langue, l'école, tout est nouveau. Alors d'abord, vous aussi, vous avez un sentiment de perte, comme votre maman. À un moment donné, et alors justement, ce que je trouve également très intéressant, c'est que, en vous lisant, on se met dans la tête de cette petite fille qui a un sentiment de déception et même d'indignation.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'on comprend, finalement, elle n'a pas toutes les clés.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a cette déception puisque, j'ai quitté également ma grand-mère adorée, que j'aimais beaucoup. J'ai quitté mes amis, j'ai quitté tout ce qui constituait ma vie à l'époque à Téhéran pour arriver à Toulouse où je ne parlais pas la langue, où j'étais, nous étions isolés, nous ne connaissions personne.
Et même le logement, vous le trouviez très petit.
Le logement, je trouvais le logement extrêmement petit. C'est vrai que comparé à ce que nous avions à Téhéran, voilà. Bon, c'était pas du tout la même chose. Et c'est vrai, c'était un grand bouleversement, on va dire, pour toute la famille. Et c'était difficile pour moi de me dire que, bon, que ça allait durer. Je pensais que ça serait provisoire et puis c'est finalement quelque chose qui, est, oui. qui s'est transformé. Mais bon.
Oui, mais je vous lis. J'ai gardé de cet épisode de ma vie un souvenir que j'aime encore aujourd'hui à me remémorer, oui. tant il fut quelque part douloureux pour moi. Vous aimez à vous remémorer ou au contraire ?
Non, j'aime bien me remémorer puisque ça, malgré... En fait, c'est douloureux, c'est vrai. C'était douloureux, mais en même temps, je garde un bon souvenir oui. de toutes ces périodes-là.
Comment papa pouvait-il envisager notre vie ainsi ? N'avait-il pris aucune considération pour notre avenir ? Ou étions-nous devenus si pauvres que nous ne pouvions plus rien nous permettre ? Etc, etc. Et on peut pas s'empêcher de sourire, mais en même temps, de comprendre cette petite fille, parce qu'elle a, comme je le disais, elle n'a pas toutes les clés. Et donc, tout d'un coup... Comment notre chef de famille, notre chef, nous amène là ? Bon, c'est compliqué.
C'est compliqué, oui. C'était surtout compliqué pour lui, je pense, de gérer...
Mais ça, vous l'avez vu longtemps après, évidemment.
Évidemment, voilà. Moi, je l'ai compris quelque temps après. Voilà, sur le coup, c'était une...
Vous étiez exclu du paradis.
Nous étions quelque part exclus du paradis, oui. Oui. C'est vrai. On avait une belle vie et...
Oui.
Et c'est très difficile de se dire que du jour au lendemain, tout ça est...
Et vous aviez le sentiment, vous ne compreniez pas les choix de votre père. En fait, le problème, c'est que les choix étaient restreints à ce moment-là, dans un premier temps.
Exactement, les choix étaient restreints. Oui, il a choisi Toulouse. Bon, j'explique dans le livre pourquoi nous sommes arrivés en France et pourquoi à Toulouse. Les choix étaient restreints, c'était la seule ou la meilleure possibilité qui s'était offerte oui. à lui à cette
Alors, à ce moment-là. Alors, il n'a pas voulu prendre le statut de réfugié politique non. qui lui aurait facilité bien des choses.
Tout à fait, oui. oui. S'il avait accepté le statut de réfugié politique, il aurait pu s'épargner beaucoup de problèmes. Malheureusement, bon, il avait ses convictions. Il était quand même, il voulait à tout prix retourner en Iran.
Oui. Et peut-être voulait-il protéger sa famille aussi.
Il voulait aussi peut-être protéger sa famille et surtout pouvoir. Il n'a jamais perdu l'espoir de retourner en Iran. Revoir sa mère, retrouver sa patrie parce qu'il aimait beaucoup son pays. Et donc, il a toujours gardé l'espoir oui. de pouvoir rentrer. Et il a préféré continuer comme ça.
Oui, mais oui. c'est vrai que ça a rendu les choses plus difficiles, y compris pour vous plus tard.
Tout à fait. Ça a oui. rendu les choses bien plus difficiles oui. et compliquées pour lui, pour nous tous, puisque sans ce statut, il avait, en tant qu'étranger, c'était difficile oui. pour lui de travailler Absolument. Correctement. Oui.
Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous n'avez pas pris en aversion tout ce qui était si différent de ce que vous aviez connu ? Probablement.
Oui, au tout début, effectivement, c'est vrai. C'était bon. Et puis après, nous avions aussi maman qui aussi accentuait un petit peu les choses en nous rappelant.
Ne positivez pas,
la situation. Alors que bon, mais après, avec du recul, vraiment, je trouve qu'on a eu quand même énormément de chance.
Alors, j'ai vu que oui, mais l'école. Oui, mais là aussi, je vous oui. dis, c'est vrai que à la fois je ressens votre livre comme un hommage à votre père et en même temps comme l'incursion, c'est pas le mot, mais dans la tête d'un enfant, et je me dis, mais c'est vrai qu'on pense aux parents, ben les parents, ils pensent à tout diriger. À ce moment-là, ils ne sont pas forcément totalement à l'écoute parce qu'ils ont tellement de choses à régler eux-mêmes.
Oui.
Et là, à un moment donné, vous parlez de ce sentiment de solitude. Et j'ai trouvé qu'en effet, on ne pense pas aux enfants qui doivent régler certaines choses tout seuls, finalement, même à 8 ans.
Même à 8 ans, oui, puisque les parents, comme vous dites, étaient tellement préoccupés par leurs propres soucis, par les soucis du quotidien, par la gestion du quotidien. Et nous, on devait juste... voilà, la seule chose à laquelle, je pense, ma sœur et moi, nous pensions, c'était surtout ne pas rajouter des problèmes supplémentaires à ceux qu'ils avaient déjà. Et donc,
vous avez bien travaillé à l'école. Apparemment, ça s'est bien passé. On vous a bien reçu.
Très bien reçu, par contre. Oui, vraiment, l'accueil était extraordinaire à Toulouse. Oui.
Une très bonne insertion dans la scolarité, des amis, de bonnes études. Alors, l'apprentissage de la langue, fort bien. Vous avez, les enfants apprennent plus vite. Et ça aussi, c'est un peu compliqué pour les parents, en l'occurrence pas pour votre père, puisqu'il parlait déjà le français, mais pour votre mère. Parce qu'on parle chez les personnes qui sont justement en situation d'exil, du renversement des interactions familiales, dans la mesure où souvent les enfants doivent aider un de leurs parents, parce que les enfants parlent mieux le français, comprennent plus vite, comprennent plus facilement, par exemple, les démarches administratives. Et ça, vous l'avez vécu, vous aussi, cette aide accordée à votre mère, par exemple?
Cette aide accordée à ma mère, je l'ai vécue, mais bien plus tard. Puisque mon père endossait tous les rôles quand il était là, encore, présent. Et ce n'est que bien plus tard où, effectivement, j'ai dû prendre le relais auprès de ma mère, puisque ma mère, de par sa culture, peut-être, ou la façon dont elle était aussi élevée, et de par les problèmes de langue, effectivement, comme vous dites,
était
dépassée par les événements.
Tout à fait.
Donc mais ça, par contre, c'est des choses que j'ai dû affronter, mais plus tard.
Oui.
Plus tard.
Alors, évidemment, on va faire une pause courte. Vous avez proposé une chanson de Jane Birkin qui s'intitule
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
Ah, un beau titre.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Yasmine Anvari-Puffet, autrice de L'échelle des voleurs, parue aux éditions Vérone. Vous avez choisi une chanson de Jane Birkin qui s'intitule « Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve ». On parlera peut-être plus encore de l'impact de ce que vous avez vécu, de différents traumatismes. Mais pourquoi avoir choisi cette chanson ?
Parce que je pense, malgré tout, ça, il y a un écho. Cette chanson fait un écho en moi. Et quelque part, j'ai l'impression, alors c'est certainement de par mon vécu, que je... Enfin, j'ai une part de mélancolie en moi qui est là. Alors, c'est pas... C'est...
voilà, qu'on peut comprendre, parce que...
Voilà, oui, et je pense que du coup, le bonheur, il y a une espèce de sentiment de culpabilité parfois vis-à-vis de, du bonheur, et j'ai peur que des moments joyeux, des moments joyeux
se termineront par
des moments de malheur. Oui. C'est un petit peu
Alors oui, donc vous avez, vous êtes vous malgré tout inséré, mais certainement, il n'y a pas eu des difficultés apparentes. Mais vous parlez à un moment donné de cette peur que vous avez quand votre père vous lâche la main, quand une dame qui s'occupe de vous vous accompagne, devant l'école, ce sentiment de solitude aussi. C'est vrai que pour une petite fille. Et vous comprenez très bien, d'ailleurs vous le dites, vous savez très bien que ce n'est pas une absence d'amour de la part de vos parents, mais ils ont d'autres choses à régler, très probablement.
Oui, c'était ça, tout à fait, ce n'était pas du tout une absence d'amour, comme vous dites, mais ils étaient très préoccupés par eux-mêmes, par leurs soucis, et je savais juste que, voilà, il fallait que j'essaie de causer le moins de problèmes possible.
D'étouffer vos sentiments et vos émotions.
Et d'étouffer mes sentiments et mes émotions.
Et c'est comme ça qu'ils peuvent ressurgir autrement.
Tout à fait. C'était un peu ça, oui. Ouais. Oui.
Alors, il y a eu un grand moment de bonheur, je dirais presque deux. C'est quand vous êtes parti aux USA.
Oui.
Alors, les États-Unis, c'est quand même... J'ai lu un passage dans je ne sais plus où, où on dit que la diaspora iranienne représentait plus de 4 millions de personnes, selon un sociologue, Nader Fahabi, franco-iranien, qui travaille essentiellement sur cette question. Aujourd'hui encore, chaque année, entre 200 000 et 220 000 Iraniens quittent leur pays. Et beaucoup ont rejoint justement la Californie et le Canada.
Oui.
Et c'est vrai que je connais trois jeunes Iraniens qui sont partis relativement tard, bien après la révolution, qui sont partis au Canada.
Oui.
Et on les laisse partir. Alors, on ne comprend pas trop le gouvernement iranien actuel, parce que ce sont souvent des jeunes qui sont étudiants.
Tout à fait.
Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que la formation, l'éducation en Iran est de très bon niveau.
C'est de très bon niveau, c'est vrai. C'est vrai, les jeunes sont assez cultivés. Déjà, la majorité des Iraniens sont plutôt cultivés. Mais
D'ailleurs, en Californie, il y a une université qui est pratiquement iranienne, qui est gérée par des Iraniens, il y a beaucoup d'enseignants iraniens.
Tout à fait. Non, surtout en Californie, à Los Angeles, qui est même nommé quelque part Tehrangeles par certains.
Oui, il y a une radio, une télévision iranienne.
Radio, télévision iranienne. Il y a vraiment une grande diaspora iranienne. Oui.
Donc, quelque chose de très attractif. Et surtout, vous avez beaucoup de familles là-bas.
J'ai de la famille, effectivement, aux États-Unis. Des tantes, la sœur de ma mère, le frère de ma mère, ils sont toujours aux États-Unis, et beaucoup de tantes, de cousines. Oui, puisque ma famille, comme de nombreux Iraniens, sont partis, effectivement, la plupart sont partis
à ce moment-là,
là-bas, puisque c'était plus simple pour
Alors,
eux.
Alors, vous parlez de semaines éblouissantes. Vous étiez subjuguée. Tout d'un coup, vous retrouviez un petit peu le climat iranien.
Exactement. Je retrouvais un petit peu le climat, l'atmosphère, tout ce que nous avions perdu. Je le retrouvais là-bas, puisque mon père avait retrouvé ses amis, sa famille. C'était un petit peu comme si la vie d'avant renaissait quelque part à cette période en Amérique.
Et vous le voyez plus détendu, évidemment, aussi. À un moment donné, il a peut-être envisagé de vivre aux États-Unis.
Il y a songé fortement, oui, il y a songé parce que pour lui, peut-être, c'était également plus facile oui. Justement à cause de ce problème de statut de réfugié politique en France et peut-être qu'il aurait eu davantage d'opportunités s'il était parti également là-bas. Mais après, je pense que finalement, c'était une bonne chose que nous restions en France. Je trouve qu'on est très bien ici en France, finalement, après coup. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, mon père avait songé, effectivement.
Oui. Et vous avez redécouvert cette parentèle chaleureuse. Et visiblement, vous aimiez être au sein d'une famille aimante. Là, à ce moment-là, vous étiez heureuse.
J'étais heureuse, oui. J'avais retrouvé effectivement mes grands-parents, ma famille, tout ce qui nous manquait en France, puisque nous étions assez isolés ici finalement. Oui. Et je suis une personne, j'ai quand même besoin d'être entourée, d'avoir ce sentiment d'appartenance à une famille.
Et s'il y a un grand sens de la famille en Iran.
Il y a un grand sens de la famille en Iran, tout à fait, oui.
Alors, vous avez connu évidemment ce traumatisme de l'exil, et puis il y a eu un premier drame. Et là, vous dites que vous avez perdu votre âme d'enfant, l'insouciance de la jeunesse. Là, c'est un moment où on découvre chez votre père un problème cardiaque très important.
Oui.
Et là, vous êtes déjà plus grande et vous comprenez déjà toutes les ramifications, ce que ça signifie.
Oui, alors ça c'est vrai, puisque j'avais connu quelques années auparavant l'exil avec la Révolution. Et là, je rencontre, cette fois-ci, c'est la maladie qui apparaît.
Oui, et qui risque de vous faire perdre. Vous avez ce sentiment-là, cette angoisse-là.
J'ai cette angoisse forte de perdre, cette fois-ci, quelque chose encore plus important. Oui.
Alors, ce qui frappe dans votre ouvrage, c'est la sincérité de vos réflexions. Les colères, les désappointements, l'émerveillement naïf, parce que aux États-Unis, en Californie, c'est une vie très aisée, de grandes maisons, etc. Devant la richesse et le luxe. Et je me suis demandé, est-ce que vous avez un journal intime ou est-ce que vous avez fait uniquement appel à votre mémoire?
Alors, j'ai un journal intime. Mais effectivement, j'ai une très bonne mémoire aussi. Donc, oui.
Et ce qui frappe également, c'est l'analyse aiguë de ce qui vous anime, de vos émotions, de vos sentiments, en très grande lucidité. Et je me suis dit, il y a peut-être eu une aide psychologique, parce qu'on le comprend, tous ces traumatismes pour vous, jeune, enfant, puis adolescente, c'est vrai que vous analysez parfaitement vos émotions.
Oui.
Vraiment, ça a été un travail sur vous-même quand même, l'écriture aussi.
Cette écriture, oui, l'écriture de ce livre a été un travail sur moi-même, effectivement.
Et est-ce que, à l'âge adulte, vous avez eu une autre façon de revivre votre histoire?
Non, je ne pense pas, mais l'écriture de ce livre m'a permis effectivement de faire une réflexion globale un petit peu sur tout mon vécu. Et de remettre tout ça un petit peu dans l'ordre et d'en trouver le sens, peut-être, que je n'avais pas. Et ça m'a permis de faire un petit peu la paix avec mon histoire et de me retrouver et Et finalement, voilà, de me réconcilier avec mes identités, c'est ce que je disais, mes différentes identités, puisque souvent je me suis posé la question, est-ce que, bon, mais bien sûr, je ne suis pas une vraie iranienne, mais je ne suis pas non plus une véritable française.
Il y a un exilé cambodgien, cinéaste, qui dit, quand on connaît l'exil, on n'a plus réellement d'identité. Au Cambodge, en France, je suis bien partout et mal partout. Loin de tout et proche de tout. Cette distance m'intéresse, dit-il. Est-ce que vous avez la même appréciation ?
C'est exactement ça, oui. Tout à fait.
Alors en plus, la chance d'appartenir à deux cultures maintenant et deux grandes cultures.
C'est vrai. Et en même temps, voilà, la conclusion, c'est que c'est une chance finalement.
Oui.
Et c'est une grande chance puisque quelque part, après, on a une ouverture d'esprit qui est quand même importante et on se sent bien partout, on va dire.
Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous citez à plusieurs reprises des poètes français et également Omar Khayyam.
Omar Khayyam, exactement. Omar Khayyam, qui est un grand poète persan du XIIe siècle, qui était donc très hédoniste et tolérant et sceptique à tout. Pour lui, la seule chose, c'était le but de la vie, c'était le plaisir. Donc, il fallait profiter de chaque instant.
Carpe diem,
exactement.
Alors, si vous permettez, pour terminer,
oui.
Je lis un extrait de ce que vous avez mis à la fin de votre ouvrage.
Oui.
Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, car la vie elle-même est dans le souffle qui passe. Voilà. Alors, Yasmine Anvari-Puffet, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de L'échelle des valeurs, le titre de votre ouvrage paru aux éditions Vérone. Et je vous remercie.
Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.